Du jour.
Ah oui, intense. Tu nous mets un...
Donc, 35 personnes ont été tuées et 43 blessées après qu'une voiture a foncé sur la foule lundi soir à Zhuhai, une localité du sud de la Chine, a annoncé la police locale mardi. Le conducteur, un homme de 62 ans, a forcé l'entrée au volant d'un petit VUS et foncé à l'intérieur du centre sportif de la ville, renversant les gens qui s'entraînaient dans les allées intérieures, a indiqué la police dans un communiqué. Il a été arrêté et se trouve actuellement dans le coma. Un colis suspect a été trouvé hier à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau de Montréal dans un carrousel à bagages dans le secteur des arrivées internationales. La totalité des vols de lundi soir à destination de Montréal ont été soit annulés, soit retardés en raison de ce problème. L'alerte n'était finalement pas fondée, annonce Madame Marcotte, la directrice des relations publiques de Montréal. Puis également, le premier jour de lockout... Hier, au port de Montréal, alors que la convention collective est échue depuis le 31 décembre dernier, des bateaux de marchandises ont déjà fait une croix sur Montréal pour rejoindre d'autres ports de la côte est américaine, comme celui de New York, d'après Madame Gaston, présidente directrice générale du port de Montréal. Un gros coup dur justement pour l'économie au Canada. Ces 1200 débardeurs en grève ont rejeté à 99,7% la proposition de la partie patronale. Pour donner quelques chiffres, selon la PDG, 400 millions de dollars de marchandises transitent habituellement justement au port de Montréal pour des retombées économiques estimées à 368 millions de dollars en une seule journée. Ottawa demande tout juste ce matin au Conseil canadien des relations industrielles, le CCRI, d'ordonner la reprise des opérations dans les ports de Montréal et également de Colombie-Britannique, où on sait qu'il y a des problèmes aussi de lockout, et d'imposer un arbitrage exécutoire à la table des négociations. Affaire à suivre. Et également, les agents de poste du Canada ont annoncé qu'ils pourraient déclencher une grève dès vendredi. Tout de suite, on enchaîne justement avec Mélissa qui nous parle de la nouvelle exposition sur l'art inuit au Musée des Beaux-Arts de Montréal qui a ouvert récemment.
Oui, alors on va parler aujourd'hui de Essence de la vie. Depuis le 8 novembre 2024, la semaine passée, il y a une nouvelle exposition d'art inuit au Musée des Beaux-Arts de Montréal qui est désormais ouverte au public et ça vaut vraiment la peine d'aller y jeter un coup d'œil pour ceux qui nous écoutent parce que c'est une exposition qui a été entièrement restaurée par l'artiste, commissaire et curateur Aisina Jack. La collection doit son origine à Frédéric Cleveland Morgan qui a joué un rôle dans le développement des collections du Musée des Beaux-Arts de Montréal. En 1953, il acquérait pour le Musée des Beaux-Arts les trois premières œuvres inuites qui étaient des sculptures, alors que les gens percevaient ça vraiment juste comme des objets artisanaux. Lui, il a su en faire des œuvres à part entière et c'est grâce à lui qu'on a encore cette exposition aujourd'hui. Au fil des années, la collection s'est agrandie, puis maintenant, 70 ans plus tard, c'est une exposition qui est maintenant majeure dans le rez-de-chaussée du pavillon Michal et Renata Ornstein. Donc, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller voir ça. D'ailleurs, le directeur général du Musée des Beaux-Arts avait un petit mot à dire au lancement de l'exposition le 7 novembre passé. Il parlait que l'on reconnaît le territoire des Premières Nations, puis c'était vraiment beau à écouter, donc on l'écoute à l'instant.
Nous manifestons cette transformation de notre mission, de dépositaire de grandes collections vers un carrefour de vie, et nous reconnaissons le territoire sur lequel nous sommes, nous célébrons l'extraordinaire créativité de la communauté inuit.
Donc, les œuvres sont issues de différentes communautés de l'Innu Nunangat. L'Innu Nunangat, dans le fond, ça réunit tous les territoires Innu du Canada, dont le Nunavut, le Nunavik et le Lunatsiavut. C'est des territoires des Innu Vialuit qui apportent chacun et chacune leur propre dimension culturelle. Puis c'est vraiment intéressant que le directeur mentionnait ça, parce que le Nunavut, qui est important dans cette exposition inuit, a connu justement l'année passée une réconciliation, de son territoire. Si on se rappelle, il y a eu un traité arrêté qui a été signé en janvier de cette année 2024 par le premier ministre Trudeau afin de redonner le contrôle des terres et des ressources du Nunavut au gouvernement local. Donc, il y a environ 2 millions de kilomètres carrés de terres et d'eau qui se sont transférés du gouvernement fédéral du Canada à celui du Nunavut, ce qui est extrêmement positif. Puis après des décennies de négociations, cet accord devrait être mis en œuvre au cours des 3 prochaines années. Il faut aussi savoir que le Nunavut est l'une des régions les plus reculées et les moins peuplées au monde, avec environ 40 000 habitants, en grande majorité des Inuits. Donc, c'est un territoire qui est très important puis qui était très présent dans cette exposition. C'est le dernier territoire, après le Yukon et les territoires du Nord-Ouest, à obtenir le contrôle total de ces terres. Aussi, c'était beau de voir que les œuvres sont reconnues aussi importantes et belles que les plus grandes œuvres québécoises et canadiennes. On réécoute d'ailleurs le directeur à l'instant qui parlait de ça.
L'art inuit a été montré côte à côte avec les œuvres de grands artistes, Olivier de Bordula, Henry Moore et autres. 70 ans plus tard, on a beaucoup appris. We also learned 70 years later from indigenous people that nothing could be said about us without us. And this truth is marked today by the fact that this reinstallation was guided by Assinaliak, herself, Inuit artist, curator.
J'ai pas encore eu la chance d'aller voir, mais c'est sûr que je vais aller y faire un tour.
Il faut.
Mais en preview, est-ce qu'il y a un médium en particulier qu'on peut retrouver?
Non, ben pas vraiment. Puis c'était assez varié aussi. Dans le fond, il y avait comme de tout dans cette exposition-là, qui comporte environ 60 œuvres au total. Il y avait beaucoup d'objets, de sculptures, de dessins de portraits, des peintures, puis des gravures. Puis aussi, c'est une exposition qui est censée recueillir 150 œuvres qui vont être changées à chaque année pour une période de 5 ans. Fait qu'il y aura toujours de la nouveauté à chaque année. Ça va être une exposition permanente vraiment intéressante.
Puis est-ce que les concepts, c'est surtout sur quoi?
Ben ce qui est intéressant dans la sélection d'œuvres choisies par la curatrice Aïssinajak, c'est qu'elle a décidé de présenter des thématiques vraiment importantes comme le quotidien, la famille, la terre et les valeurs qui sont les préoccupations inuites aussi sous un angle qui cherche à résoudre des problèmes et qui est vraiment universel. On le sait, les Autochtones, c'est un peuple qui a vécu beaucoup de changements avec le changement climatique, les projets d'exploitation sur leur territoire et l'adaptation de leurs traditions et de leur langue. Ils ont toujours été présents et de plus en plus, on les reconnaît aussi dans notre culture identitaire canadienne. À une époque où les écosystèmes sont fragilisés et la solidarité est mise à l'épreuve, Aïssinajak nous encourage vraiment à reconnaître les liens profonds qui nous relient tous en tant qu'êtres vivants comme la Terre. Par exemple, il y avait une œuvre vraiment touchante où c'est un fœtus qui est dessiné à la main, où est-ce que sa tête représente aussi la Terre. Donc ça, c'était vraiment beau. C'était beaucoup d'œuvres comme ça qu'elle a mis de l'avant. Puis aussi, on sait, avec beaucoup de changements climatiques, ces derniers mois, on en a vu plusieurs. Donc, hier, il y avait aussi un rapport super intéressant récemment qui est sorti sur l'état du climat en 2024. Puis, on sait, il y a eu les inondations en Espagne, des ouragans aux États-Unis. Donc, c'est vraiment préoccupant. L'Organisation météorologique mondiale sonne l'alerte parce qu'on a atteint encore des nouveaux records en 2024. Entre janvier et septembre 2024, la température moyenne à la surface du globe a dépassé de 1,54 degrés Celsius, la moyenne pré-industrielle selon l'instance onusienne du rapport. Donc, c'est vraiment des gros sujets préoccupants, mais c'était beau de voir comment que ce peuple qui est aussi notre identité canadienne, nous rappelle des messages d'espoir quand même, puis d'optimiste face à ça. Et pour conclure, j'aimerais terminer sur un mot du conservatoriste Lully Esraghi, avec qui j'ai pu m'entretenir aussi, qui disait que grâce à cette nouvelle présentation, la collection d'art inuit du musée est plus que jamais à la portée de tous les publics de Montréal et d'ailleurs. Elle témoigne par sa grande diversité de la vitalité de la création artistique de l'Innu Nonangat et plus largement de la résurgence des arts autochtones à l'échelle canadienne et internationale. Donc, quand on y pense, il y a tellement d'influences autochtones aussi que nous avons adoptées dans nos cultures, même au Québec, sans nécessairement comprendre ou prendre conscience d'où ça vient. Comme par exemple, Québec, Canada, c'est tous des mots autochtones. Je sais pas si vous le saviez, mais...
Non, tu m'en apprends une bonne.
Ah, OK. en tout cas, c'est bien de voir qu'on a de plus en plus de réconciliation aussi avec eux dans l'environnement et la culture. Aussi, restez à l'affût parce qu'il y a un concours qui se passe au Musée des Beaux-Arts. Donc, vous pourriez courir la chance de gagner un séjour pour 4 personnes en immersion culturelle dans la région de Iqaluit, pardon, au Nunavut. Pour participer, vous pouvez vous rendre en ligne puis compléter un formulaire. C'est un concours qui est d'une valeur de 35 000 $ environ. Donc ça vaut la peine pour ceux qui veulent aller s'inscrire.
T'as juste à signer le formulaire, t'as rien à proposer comme projet.
Oui, exact. Vous avez juste à aller en ligne. Je l'ai fait hier, puis honnêtement, ça a l'air vraiment le fun. Donc je vous conseille à tous de le faire.
Ok.
Mais merci beaucoup, Mélissa, justement pour cette chronique. Restez à l'affût. On fait une petite pause musicale avec Chewing Gum de Vendredi sur Mer pour ensuite partir sur la consommation et l'industrie du textile avec Anne-Li et Lauriane. À tout de suite.
L'amour dans les draps et les week-ends chez toi, ces gardes partagés pour un amour en danger. Au sommet de la colline, ton regard me fascine. Quand tu partais des mois, j'avais le mal de toi. Reviens-moi, entier, vivant, rappelle-moi. Ce soir, tout le temps, visitons la ville de nuit, de jour. Vivant, rappelle-moi. Ce soir, tout le temps, visitons la ville de nuit, de jour. Et naviguons facile, maintenant, pour toujours. Dans ces moments-là, je... Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que ces mines... Je crois que ces mines ne suffit pas. Dans ces moments-là, je... Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que ces mines...
Dans ces moments-là, je ne sais pas. Je crois que c'est...
C'était Chewing Gum de Vendredi sur Mer sur les ondes de CSM 89.3 La Marge. Je donne la parole directement à Annie et Lauriane pour parler de notre consommation et plus précisément de l'industrie du textile.
Bonjour. On aimerait commencer par souligner que c'est la 29e conférence climatique de l'ONU qui s'est ouverte hier, ce lundi, en Azerbaïdjan. La COP29, aussi appelée la COP financière, compte négocier pour un nouvel objectif mondial en matière de financement de la lutte contre le changement climatique. Un nouveau cycle de négociations afin de concrétiser les ambitions prises lors de la COP précédente à Dubaï. Il y a un an déjà, les besoins en finances climatiques du monde entier sont estimés en ce moment à 10 000 milliards de dollars par an entre 2030 et 2050, selon une étude des Climate Policy Initiative. Pourtant, seulement 1,3 milliard environ ont été dépensés en 2021 et 2022. Donc, vu la grandeur du rattrapage à effectuer, l'échec partiel des négociations de la COP16 sur la biodiversité en novembre dernier, qui s'est terminé en fait le 1er novembre, et aussi si on prend en compte le non-respect des promesses d'année en année, il devient dur de motiver les pays impliqués à continuer à contribuer à la hauteur de ce qu'ils peuvent le faire. Le niveau d'absentéisme, d'ailleurs, parle de lui-même cette année. Les présidents de la France, du Canada et des États-Unis ne seront pas au rendez-vous. Pareillement pour le Brésil, le Royaume-Uni, la Russie. Il en va de même pour le premier ministre indien, le président chinois, le Sud-Africain, même le premier ministre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui ont pourtant vraiment ressenti les conséquences des changements environnementaux dans la dernière année, ne sera plus présent en disant que c'est une perte de temps. Bref, beaucoup d'absents qui donnent l'étendue de la lassitude et qui mettent en évidence que rien n'oblige les pays à respecter leur engagement. Et c'est frustrant pour les pays qui respectent ces engagements. C'est décourageant pour la population aussi qu'on leur demande de faire des différences à plus petit niveau quand leurs propres représentants ne se présentent pas à des conférences aussi importantes. On fait un petit récap, juste contextuel. La production intensive, c'est la source des changements climatiques. On s'entend tous là-dessus. Mais c'est nourri par une demande qui est toujours plus grande. Puis la demande, ça, c'est notre responsabilité individuelle. S'ils peuvent vendre, c'est que nous, on est là pour acheter. Bien sûr, il faut nuancer qu'on est conditionné depuis l'enfance du fait que consommer, c'est intimement relié à notre idée de réussite sociale. On a intégré depuis notre tout jeune enfance que notre réussite passe par notre pouvoir d'achat, notre capacité à accumuler des biens matériels. Donc, c'est dur de déconstruire cette idée. C'est un défi de convaincre les gens de changer leur mode de vie pour retrouver une planète sobre en carbone. Juste en termes de se vêtir, c'est un besoin de base qui est devenu une vraie industrie de la mode et on va se le dire de réputation. Aujourd'hui, la production mondiale de vêtements est responsable de 10% des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises en une seule année selon l'OBNL Équiteur.
Oui, justement, Lauriane, les vêtements synthétiques sont notamment fabriqués de polyester et libèrent des microfibres de plastique lorsqu'ils sont lavés ou même simplement portés. Et ce, pendant la majeure durée de leur vie, même toute leur vie. Ces minuscules particules deviennent des microplastiques durables et se répandent dans l'environnement, qui polluent ainsi les écosystèmes aquatiques et terrestres. Donc, cette pollution est bien présente à chaque étape d'usage. Donc, on se rappelle pas juste au début. Il faut se le dire, l'industrie de la mode sait très bien comment nous pousser à suivre les tendances de la mode et à renouveler notre garde-robe plusieurs fois par saison. Je suis un peu coupable, je sais pas pour vous. Certaines marques vont même jusqu'à proposer une nouvelle collection chaque semaine de l'année, comme Shein ou bien Garage.
Mais justement, tu sais, comme le fast fashion sur Shein, Temu, H&M, Zara, est-ce que au final, ça permet d'avoir beaucoup de vêtements à bas prix, mais l'environnement dans tout ça?
Ben justement, selon Équiteur, cette production de fast fashion se résume à environ 80 milliards de nouveaux articles par année. Donc, 54% qui sont en fibres synthétiques. Donc, c'est extrêmement polluant. Ça a quadruplé en 20 ans. C'est énorme. Équiteur compare cette responsabilité-là d'émissions de gaz à effet de serre à plus de celle des secteurs de l'aviation internationale et du transport maritime, les deux réunis.
C'est fou parce que je me rappelle, pendant la COVID, il y avait les influenceurs qui étaient partis en avion, puis on avait tout... Tu sais, il y avait vraiment eu beaucoup de backlash. Puis pendant ce temps-là, on était peut-être tout en train de porter de la fast fashion et
mm-hmm. ouais, c'est drôle de faire le parallèle. Ça a été le pic du fast fashion pendant la COVID. Et justement, pendant ce temps, il y a environ 878 tonnes de microfibres qui se détachent chaque année des vêtements synthétiques pendant le lavage et se retrouvent dans des eaux douces marines du Canada et des États-Unis. J'ai fait une petite recherche. Ça donne environ 146 éléphants africains ou un tiers d'une piscine olympique. Ça vous donne une petite idée.
146 éléphants.
C'est quand même énorme.
C'est énorme, ouais. Justement, c'est important de mentionner que les pays producteurs aussi sont grandement affectés sur les écosystèmes aquatiques, notamment à cause des fertilisants, pesticides et autres rejets chimiques qui sont libérés dans l'environnement, par exemple les colorants, fixatifs, etc. Donc, 20% de la pollution industrielle de l'eau est attribuée à l'industrie textile.
Tu sais, ce qui est fou, c'est que ces chiffres, on les connaît, puis pourtant, nos habitudes de consommation ne changent pas drastiquement. Puis là, je culpabilise pas personne, je suis la première à faire ça, d'accord? On s'adapte, on parlait de seconde main plus tôt, mais je suis coupable comme vous, ça réduit pas ma consommation de fast fashion, ça fait juste s'ajouter. En tout cas, dans mon cas, je sais pas pour vous.
Ah oui, oui. C'est vraiment pour ça qu'on voulait aborder ce sujet-là aujourd'hui.
Mais oui, parce que c'est comme on trouve nos morceaux favoris spéciaux, tu sais, mais notre base est souvent parmi le fast fashion. Et chapeau à ceux qui
contribuent
oui,
pas à
exact,
ça,
Oui.
Ben moi, j'essaie d'aller de moins en moins dans le fast fashion, mais je t'avoue que même quand je vais dans des friperies, maintenant, c'est rendu tellement cher que comme des fois, je me dis, ben là, je vais rendu là au lieu de m'acheter un blazer qui est rendu cher dans une friperie à Montréal, ben je vais aller dans un H&M, tu sais, des
ou
fois.
Sur chaîne,
oui, puis maintenant les fast fashion, il y a beaucoup de, puis il y a beaucoup de plus en plus de linge de fast fashion dans les friperies aussi.
Mais bref, moi je me demandais. Parce que je suis aussi coupable que vous, j'aimerais comprendre pourquoi ce besoin de consommer à l'excès est autant imprégné en nous alors qu'on connaît la réalité qui nous entoure. On est chanceux aujourd'hui, on a Christophe Sam qui est avec nous pour essayer de décortiquer tout ça, nos habitudes de consommation. C'est un chargé de cours dans le département de sociologie et sciences politiques à l'Université de Montréal et chercheur sur la transition écologique et sociologique. Bonjour.
Bonjour,
ça va
monsieur
bien?
Sam.
Bonjour. Merci Bonjour. Beaucoup pour l'invitation.
Mais on est vraiment content que vous ayez accepté d'être avec nous en direct aujourd'hui.
On voulait commencer par la première question, c'est comment la culture de la consommation de masse influence-t-elle nos comportements d'achat?
C'est une grosse question.
C'est une grosse question,
ça commence par une grosse question. Si on met ça un peu dans le contexte, justement, on parle de société de consommation ou même de société de surconsommation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on achète des biens en abondance, donc éventuellement même au-delà ou souvent au-delà de nos besoins. Donc ça veut dire, bien sûr, il faut se vêtir, mais en fait, dans une société de consommation, on achète des biens et des services aussi, pas uniquement pour ses
pour
besoins,
mais
en fait pour se différencier des autres, pour se montrer aux autres, pour avoir du prestige. Et donc, c'est quelque chose qui est bien sûr nourri par les industries, par la production. Parce que, bon, on peut mettre l'accent sur la consommation quand on dit société de consommation, mais à la base, il faut une société très productiviste pour qu'il mm-hmm. puisse avoir une société de consommation. Et donc, ça va...
Donc, c'est pas l'inverse, c'est pas le besoin de consommer qui crée une société de production, mais plus la société de production qui crée...
Qui ont besoin des consommateurs.
Bon, ça se nourrit mutuellement, bien sûr. Au bout de compte, quand on produit, il faut que ça soit
vendu.
Mais
c'est la poule et l'œuf.
Mais disons, les industries font tout, mettent tout en place pour effectivement les choses sont vendues. Donc ils peuvent jouer sur le prix, bien sûr la publicité, mm-hmm. le développement des cartes crédit. Donc ça pousse à l'endettement. Vous pouvez même faire des petits achats et payer en 4 fois pour quelque chose qui coûte 15 $. Donc c'est très innovatif en fait en termes de nourrir en fait cette société de consommation. Aussi, on peut dire souvent le consommateur, il a pas tellement le choix. Donc, le consommateur, il est seul, atomisé. Il peut pas dire bon, moi j'aimerais acheter un tel truc parce que ça me paraît éthique. Bah, peut-être c'est pas disponible. Les voitures, par exemple, les petites voitures au Québec. on peut plus en acheter, ils sont plus disponibles.
Mais oui,
donc, donc c'est plus je reviendrai peut-être plus tard, mais on risque un peu de surresponsabiliser le consommateur en ne regardant pas assez peut-être sur le côté productiviste.
Okay. C'est intéressant parce que je parlais avec un membre de ma famille cette semaine pour les alternatives meilleures pour l'environnement. Puis on parlait des brosses à dents, que ça existe, que t'achètes la brosse à dents, c'est la base en plastique. Puis tu peux juste interchanger les poils, je sais pas comment le dire.
Ouais,
les poils. Sauf que ma tante, elle a acheté ça et depuis, elle ne trouve plus aucun magasin qui vende les poils interchangeables. Puis c'est vrai, vous avez raison, il y a des alternatives, mais ça change, c'est dur à trouver, c'est pas tout le temps disponible.
Ouais.
Donc oui, j'ai eu la réalisation hier, fait que c'est parfait.
Et en plus, pour les brosses à dents, on pourrait ajouter, souvent, l'emballage, c'est un gros emballage en plastique qui est quasiment aussi lourd que la brosse à dents en soi et sans aucune nécessité. Donc, peut-être on peut en acheter des brosses à dents sans emballage, mais souvent, c'est pas nécessairement possible.
Puis, oui, vas-y, je t'en
prie. Ah ben, vas-y.
Mais pourquoi les gens ont-ils tant de difficultés à adopter des comportements de consommation plus responsables alors qu'on connaît plus les conséquences? J'avais la théorie loin des yeux, loin du cœur, parce que nos déchets, on les envoie beaucoup en Asie, en Malaisie. La Malaisie, d'ailleurs, elle vient de dire qu'elle a fermé ses portes, qu'elle a renvoyé des containers parce que c'était trop. Mm-hmm. Les impacts aussi environnementaux, c'est pas nous qui les subis, ou très modérément. Je veux dire, un hiver plus chaud, on s'en plaint pas, tu vois, directement. Donc, c'est une bonne théorie, loin des yeux, loin du cœur.
Ben, pour la production du fast fashion, c'est sûrement ça. Et effectivement, on ressent très peu en fait les impacts négatifs de la fast fashion, parce qu'à la fois toute la pollution qui est créée dans la cultivation du coton par exemple, qui demande beaucoup d'eau, beaucoup de pesticides, beaucoup d'engrais, mais aussi, vous l'avez mentionné, de plus en plus les vêtements sont synthétiques.
Ouais.
Donc c'est du pétrole. En fait, on porte du pétrole si on porte des vêtements synthétiques. Donc, ça commence là, par la fabrication du vêtement, qui est dans les pays où les salaires sont plus bas, où les règlements environnementaux sont les plus bas. Et après la pollution, justement, on exporte après les vêtements, disons, recyclable, mais on voit bien que c'est pas souvent le cas. En fait, dans les pays du Sud, on connaît les exemples du Ghana ou du Chili, où en fait, il y a des énormes dépotoirs de vêtements que les pays du Nord ont considéré comme étant recyclables, mais la qualité est beaucoup trop basse, ou de vêtements de seconde main, la qualité est beaucoup trop basse. Et en fait,
pour les recycler, vous voulez dire?
Oui, ou pour les réutiliser. Le recyclage coûte peut-être trop cher, donc c'est des dépotoirs, ou bien c'est brûlé, mais pas dans des conditions avec des filtres ou des choses comme ça.
Mm-hmm. Mais je pense que même en Europe, on le voit plus. Souvent en Italie, tu sais, je voyais comme des piles de déchets de vêtements, mais ici au Canada, on voit pas tant ça. Donc
c'est vraiment caché.
Est-ce que vous pensez que les friperies, justement, peuvent encourager un changement durable dans l'industrie de la mode s'ils sont locales, tu sais?
Ben, les friperies, oui, tout à fait. Ça c'est une très bonne chose. Il y a aussi des organisations d'échange de vêtements, en fait. Mais il faut, dès le départ, en fait, qu'il faut que les vêtements soient d'une bonne qualité.
Exact.
Parce que sinon, on peut pas, en fait, les réutiliser ou l'utiliser pendant longtemps. Mm-hmm. Et donc, les friperies peuvent seulement fonctionner si on a un stock de vêtements de bonne qualité.
Donc, si la prétention.
Si la grande majorité achète de plus en plus de vêtements à mauvaise qualité, qui est prisé après 2-3 lavages, ou même des fois sur le ticket, ça dit pas le droit de laver. En fait, il faut donner au lavage à sec. Donc, c'est même plus lavable les vêtements. Et donc, ça, à moyen terme, ça fonctionne pas vraiment pour les friperies non plus.
Je sais pas si la population en général se soucie tant que ça de l'étiquette en plus, tu sais, de lavage.
Jamais. Je regarde c'est quoi les matériaux.
À part si je tiens vraiment à mon morceau de linge, moi, je mets tout, tu sais. Mais c'est bon à savoir, par contre, de vraiment lire l'étiquette. Merci de l'avoir mentionné.
Est-ce que vous considérez que le Canada met en place des stratégies pour répondre aux symptômes plutôt que de s'attaquer aux vrais problèmes? Parce que parfois, j'ai l'impression que mettre de l'avant la seconde main, c'est très bon. Sauf que ça détourne de la volonté politique de vraiment encadrer l'industrie du vêtement ou peu importe quelle autre industrie polluante. Et ils continuent à produire autant. C'est juste que nous, en tant que citoyens, on doit faire attention à comment on achète.
Après, pour qui va intervenir et comment. Bon, ça c'est un grand enjeu. Souvent, on se rend compte pour certains éléments, en tout cas, si on compare le Canada avec ce qui se passe à l'Union européenne, qu'il y a plus en fait de tentatives, au moins au sein de l'Union européenne, pour régler certains de ces problèmes. Par exemple, en termes de recyclage, il y a maintenant des choses qui sont mises en place à ce que le producteur soit responsable. En fait, pas seulement de la vente et après il se lave les mains, mais vraiment jusqu'à la fin. Et donc il finance en fait une partie de il finance en fait les activités pour justement recycler ou détruire les vêtements. Comme ici, ce qu'on a pour les biens électroniques, en fait, quand on achète un ordinateur, il y a comme une petite taxe, mais ça sert en fait à payer le recyclage. Donc il y a des choses comme ça qui se mettent en place. Il y a vraiment une stratégie aussi d'économie circulaire. C'est relativement peu, hein. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais c'est plus loin souvent que ce qu'on peut voir au Canada. Le Canada, il se repose. Bah, il est trop proche peut-être des États-Unis. Il dit, bon, si les États-Unis ne font pas, nous, on ne peut pas faire, parce que c'est vrai qu'il faut une certaine taille de marché. Mais on pourrait aller beaucoup plus loin. On pourrait justement dire faire des demandes de qualité. De dire, bon, vous devez donner une garantie. Mm-hmm. Chaque morceau est lavable 50 fois. Ou je ne sais pas, je dis un chiffre comme ça. Et peut-être limiter la publicité pour la fast fashion. Donc, peut-être même mettre des critères sociaux et environnementaux par rapport à l'importation des biens. Ouais. Et il y a une discussion, en fait, comme une sorte de contrainte carbone, en fait, pour les biens qui entrent dans l'Union européenne. Donc, il y a des idées qui sont discutées.
OK. Mais on parle de, justement, toute la production, tous les effets secondaires qu'il y a après, puis qui vont toucher l'environnement. Mais si on regarde d'un autre côté, si les gens, ils achètent du fast fashion, donc des vêtements de mauvaise qualité, c'est justement parce que c'est pas cher. Mais pourquoi on cherche des options qui sont pas chères? Parce que nos salaires sont relativement plus bas. Donc, en fait, il y a toute une corrélation de facteurs, en fait.
Oui, bien sûr. Donc ça, c'est un peu les mécanismes d'achat, effectivement. Donc on peut voir ça comme de... Bon...
Mais non, mais c'est parce que j'allais dire, c'est aussi une question de quantité. Tu sais, j'ai l'impression que, ouais, vu qu'ils sont cheap, ils sont moins bons rapidement. Tu sais, on achète 4 t-shirts blancs au lieu d'en acheter un qui vaut plus cher, ouais, peut-être.
Mais moi, je suis pas d'accord. Oui, mais je pense aussi que c'est une question de mode. Que t'as une qualité ou pas... Si tu vois quelqu'un porter dans ton TikTok ou ton Instagram quelque chose qui lui va bien, puis t'as la même shape, t'as le goût de l'acheter. Qualité ou pas? Tu comprends ce que je veux dire?
Mais que t'as de la qualité chez vous ou pas? Plusieurs facteurs économiques avec les influenceurs aussi, ils aident pas.
Ouais, exact.
Mais je pense, comme vous avez dit au début aussi, les entreprises font du marketing pour encourager ça aussi.
Mais
beaucoup.
Oui.
Ben, la mode, c'est fabriqué par les entreprises. Donc, les entreprises ont intérêt à changer rapidement la mode. Donc, là, on peut utiliser le concept qu'on appelle obsolescence programmée. Donc, il y a comme deux volets. Il y a une, c'est l'obsolescence symbolique, ouais, on peut dire. Donc, c'est la désuétude des objets qui est organisée par l'industrie.
Qui pousse à acheter par la suite.
Et dire, bon, c'est pas si mode, ouais, ça c'est vieux, c'est de l'année dernière, il faut du nouveau. Mm-hmm. Et donc tout ce qui est nouveau est fortement valorisé dans notre société. Donc quand c'est nouveau, c'est bon, quand c'est vieux, c'est moins bon, sauf si ça devient une antiquité, disons, ou des fois il y a des modes un peu vintage aussi, mais ouais, généralement le nouveau c'est bien.
C'est une question d'inclusion sociale, en fait.
Ouais. Et l'autre, c'est l'obsolescence planifiée, c'est-à-dire, ouais, les objets sont fabriqués pour ne pas durer. Ouais. Bon, à la fois ça permet donc de vendre à bas prix, mais c'est fait pour ne pas durer, généralement. Et donc, on pourrait fabriquer des vêtements qui durent très, très longtemps. Mais justement, c'est comme le mécanisme avec l'obsolescence symbolique qui fait en sorte qu'on jette rapidement parce que c'est passé date. Ouais. Et après, du coup, on dit, bon, finalement, on ne doit pas créer des objets durables. Donc moi je vois une piste de solution, ça serait peut-être de dire, bon, comment est-ce qu'on peut dans une société valoriser le durable au lieu de valoriser le neuf. On valorise le neuf.
Mm-hmm. Ouais.
C'est cool et sexy quand c'est neuf. C'est pas cool et sexy quand c'est trois fois réparé, mm-hmm. quand vous l'avez ouais. de votre grand-mère, quand c'est... Et c'est... comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Et bon, c'est ouais. une longue conversation, bien sûr, mais moi, je pense, par exemple, on pourrait faire beaucoup plus dans les écoles. Par exemple, si on se rend compte, les cours dans les écoles, c'est souvent des cours relativement abstraits, relativement théoriques. On dit, oui, on sensibilise au réchauffement climatique. Tout le monde sait à peu près ça, le réchauffement climatique. Mais après, ça reste
ça
relativement
rentre pas dans
après.
Le concret.
Et
ça reste
donc,
dans l'abstrait.
On a, par exemple, à l'école secondaire, il y a un cours de finances personnelles. Ça s'appelle finances personnelles. Vous l'aviez peut-être fait, ou oui. peut-être vous avez des souvenirs. Bon, qu'est-ce qu'on apprend? Bon, on apprend bien sûr de ne pas trop s'endetter, mais sinon on apprend à être un bon consommateur et un bon producteur. Donc à ouais. gagner un bon salaire pour après pouvoir le consommer, tout en pas trop s'endettant. On pourrait offrir des cours, en fait, qui mettent beaucoup plus l'accent, on pourrait appeler autoproduction. Mmh, donc, okay. Comment réparer les choses, comment cuisiner nous-mêmes, comment fabriquer des vêtements, comment fabriquer certains objets. Et,
c'est juste que ça prend du temps. C'est un luxe qu'il n'y a pas tout le monde qui a, évidemment, on le comprend.
Ça serait idéal.
Pour ça, il faudrait le faire. Pourquoi? Ouais.
C'est parce que c'est pas imposé dans la société non plus, fait qu'on n'a pas tendance, je pense, à le faire et à le répéter.
Pourquoi tous les jeunes qui sortent de l'école secondaire n'ont pas fait un cours de cuisine? Moi, je trouve que c'est pas ouais. dans le vêtement, mais on pourrait dire, bon, ouais. pourquoi pas faire un cours de textile?
Ouais. Comment recoudre, c'est la facilité,
comment
j'imagine.
Recoudre un bouton?
Ouais.
Comment,
ouais. Les trucs utiles.
Et donc, je pense qu'il faudrait mettre beaucoup plus de, poids là-dessus. Mm-hmm. Parce que là, si on regarde dans les cours, on ne voit pas vraiment quelqu'un. Bon, donc, on observe des gens qui font leur magasinage en ligne de vêtements. Ouais. Mais on ne voit pas des gens qui sont en train de tricoter une tuque mm-hmm. en classe.
C'est
mais pourquoi, magasinage en ligne, tout le monde le fait, mais tricoter une tuque pendant le cours, personne ne le fait. Donc, bon, il faut réfléchir à ça un peu. Comment peut-être favoriser mm-hmm. justement le durable et aussi l'autoproduction au lieu de penser qu'il faut mm-hmm. tout acheter et rapidement renouveler.
Merci.
Merci beaucoup ouais. pour merci. Vos propos.
Ça a un peu éclairé le sujet pour, de mon côté.
Ben vraiment.
Mais autoproduction, on se le souhaiterait tous d'apprendre à faire ça. Je pense que c'est aussi la facilité quand tu vas à l'épicerie, t'as tout au même endroit dans les grandes dans les grands centres commerciaux aussi, t'as tout qui est rassemblé au même endroit. Produire tout par soi-même, c'est difficile. C'est peut-être de trouver une chose en particulier. Tu sais, dans ton groupe d'amis, tout le monde a son dada qui fait, que ce soit coudre, faire de la nourriture et tout. Il y a peut-être moyen de retourner à quelque chose de plus communautaire, de s'entraider en nous. Moi, je sais que, mettons, ma tante a fait ses savons, a fait ses choses, qu'elle m'en donne. Moi, en retour, ben, je thrifte. Je te ramène des morceaux de vêtements. Mais en tout cas,
justement, parlant du thrifting, les boutiques seconde main comme Renaissance, Village des Valeurs, Éditorial, Capara Vintage, Vinted, etc. Ben, de plus en plus de gens se tournent vers des solutions durables et abordables pour s'habiller.
C'est juste d'être certain qu'on fait pas juste rajouter à ce qu'on consomme déjà avec le fast fashion, mais bien de remplacer et aussi de revoir, de diminuer notre consommation. C'est pas juste une question de transiter vers des sources plus verte, mais aussi de réduire, même quand on consomme vert. C'est pas nécessaire d'aller dans l'excès. Annie, elle a eu la chance d'ailleurs de s'entretenir avec les deux propriétaires de la boutique de vêtements seconde main chez Claude Vintage à Québec.
À Sorel,
mon erreur. Voici ce qu'il en pense, si c'est plus version écologique ou... c'est quoi les intentions de ses clients?
Le monde qui magasine plus vintage dans les magasins comme le nôtre, ils pensent plus à la mode qu'à l'environnement, à mon avis. Ce qui est cool, c'est que inconsciemment, tous nos clients font un bon move pour la planète. Et c'est pas nécessairement leur but premier, mais ils le font.
Ben justement, cette mode seconde main, même si elle a l'air comme une solution vraiment éco-responsable, elle peut comporter quelques effets malsains. Cette tendance appelée greenwashing comportemental est une méthode de marketing, comme vous dites tantôt, qui consiste à communiquer aux consommateurs en utilisant l'argument écologique. Cette technique pousse justement les acheteurs à accumuler plus d'articles sous prétexte qu'ils sont usagés et donc moins polluants pour que des achats neufs. Il y a quelques aspects négatifs, j'en nomme quelques-uns. De un, la facilité d'accès à des vêtements abordables en friperie ou sur des plateformes en ligne comme Vittel, la penderie du paradis, etc. Ça incite certaines personnes à acheter plus que le nécessaire, comme vous disiez tantôt, monsieur Stam. La mode seconde main peut normaliser la consommation excessive tout en donnant l'impression de s'engager pour la durabilité, l'écologie, ce qui renforce peut-être le modèle de surproduction et de surconsommation. De deux, oui, les vêtements d'occasion sont censés prolonger la vie des articles, mais le volume total des déchets textiles, lui, continue d'augmenter malgré tout parce que les gens consomment autant ou même plus avec la seconde main. Par exemple, les friperies reçoivent souvent plus de dons qu'elles ne peuvent en vendre. C'est ça que Claude Vintage me disait. Ce qui mène peut-être à l'exportation massive vers des pays en développement ou des articles finissant parfois dans des décharges. Puis enfin, ben, les achats en ligne de vêtements de seconde main nécessitent souvent des emballages et des expéditions. Ce qui, encore une fois, génère des émissions de carbone. Je rappelle que c'est pas la quantité qui compte, mais la qualité. Je ne sais pas si vous avez quelques solutions ouvertes à tous. Moi, j'ai réduit la consommation, ce qui est dur pour moi à faire quand même. Puis, comme vous disiez tout à l'heure, réparer plutôt que remplacer. Des fois, on a tendance à acheter une nouvelle chemise parce qu'il y a deux boutons qui ont détaché. Prends un petit bouton dans le coffret de couture de ta mère et tu le couds, tu sais, au lieu d'acheter une nouvelle chemise nécessairement, tu sais.
Ben, moi, en vrai, c'est vraiment plus dans la réduction. Je pense que je réalise que quand j'achète, c'est pour remplir un vide. C'est comme la dopamine facile. Ouais. Si je m'emmerde ou tout, je vais commander quelque chose, puis ça dure une journée, là, tu le portes une ou deux fois. Tandis que c'est de me dire, essayer de remplacer ces sources de dopamine-là différemment, que ce soit pas... OK, là, je vais sonner très grano, là, mais la méditation, me faire un bon repas...
Non, mais c'est 100%.
Ça va avoir des satisfactions plus saines.
Ouais. Ouais. Mais je pense que ça serait le fun aussi que les gouvernements ou les compagnies, les entreprises, de plus en plus, pensent plus à la communauté, justement, parce qu'on est dans un pays très individualiste. Mm-hmm. Puis souvent, on pense qu'il y a l'argent, mais ça serait bien de...
Qu'il y a une responsabilité morale.
Mais c'est très capitaliste là, de penser juste au marketing aussi.
Ouais, d'essayer de changer ces habitudes-là pour que les consommateurs aussi soient plus dans des changements concrets.
Sinon, tu fais comme moi, tu vas pas magasiner.
Aussi, tu fais autre chose, aussi. Tu restes chez toi, tu dors.
Pour le vêtement, j'ai un petit truc en fait. Vous pourrez dire, tout le monde pourrait dire, bon, pendant un mois, j'achète pas de vêtements.
Ouais,
et si ça marche, vrai. On pourrait dire, bon, pendant une saison, je n'achète pas de vêtements. Et après, on pourrait dire, beaucoup pourraient sans problème dire, pendant une année,
mais oui, facilement.
J'achète pas de vêtements. Et après un an, on peut faire le bilan et voir, bon, est-ce qu'on a vraiment besoin autant?
Ouais. C'est aussi de se questionner sur les causes sincères. Si tu as besoin de magasiner autant, reviens à l'intérieur de toi. Peut-être que tu as besoin de te demander, dis santé mentale.
Quel vide que tu as besoin de combler?
Oui, peut-être que c'est une bonne opportunité de travailler sur toi puis d'aller voir ce qui est vraiment essentiel dans ta vie.
Et justement, en fait, comme moi, ça fait 10 ans que je porte les mêmes vêtements. Et puis ma copine...
Bah, on allait justement te demander, toi, Tristan...
m'incite à aller acheter des vêtements, parce que va falloir que... Mais bon, je pense que juste pour revenir rapidement sur les friperies, je pense qu'il faut faire attention aussi des fois, parce que j'ai l'impression qu'il y a une certaine mode avec les friperies. Mm-hmm. Il y a des friperies, oui, qui sont pas chères et qui permettent d'acheter des vêtements vraiment genre pas chers et de seconde main. Mais des fois, il y a des friperies qui sont très chères et pourtant les vêtements sont de mauvaise qualité et ça fait genre trois fois qu'ils sont passés par des personnes.
C'est triste pour les familles qui ont besoin de ces services-là, puis que les prix augmentent à cause que ça devient populaire, puis que c'est peut-être un peu moins accessible. Bref, je ferme le sujet là-dessus, une réflexion.
Merci beaucoup, en tout cas, pour cette chronique. C'était super intéressant. On aurait pu en parler encore pendant vraiment, vraiment longtemps. Merci, Christophe Stam, d'être venu avec nous.
C'était
vraiment
un
plaisir de vous accueillir. On fait une petite pause musicale avec Désert de Anna Saint-Louis. À tout de suite dans Bulle d'écoute.
I know the desert is wide, it's half filled with sky, but still I pretend to know you'll be coming home soon. Some men shake trees to find a holy life. A holy life, a holy life, a holy life. But it comes and it goes and it dies. It comes and it goes and it dies. It comes and goes, it comes and goes. it comes and goes and dies. It comes and goes, it comes and goes, it comes and goes and dies. The back roads seem kind of wild, with the dust blowing round for miles, and the pilgrims are hoping to find their rivers had not run dry. But I like a fire into the night, out like a fire, smoke to the sky, out like a fire, you live to find out.
Retour dans Bulle d'écoute, votre émission hebdomadaire. On se retrouve tout de suite avec Maïna qui va nous parler de la génération Alpha. Je ne vous en dis pas plus.
Est-ce que vous vous rappelez, c'était quoi votre premier réseau social ? Que vous avez installé ?
Facebook. MSN.
Facebook.
Ouais, MSN.
Oui,
ah ouais, monsieur, oui. Oui. Vous n'avez pas connu Skype ?
Non. Ah, si, mais c'était après MSN.
Ouais. Non, c'est vrai. C'est moi qui me dis n'importe quoi.
T'as pas eu MSN, toi ?
Si. Oh my god, avec les Wiz et tout.
Bah oui.
Ouais, c'est ça. Est-ce que vous vous rappelez à quel âge vous avez ouvert votre premier compte de réseau social ?
Oh mon dieu.
J'avais 12 ans.
Ouais.
Puis ma mère m'a laissé faire un Facebook.
Ouais.
Contre son gré, parce qu'elle voulait pas oublier. Toutes mes amies l'avaient.
Primaire, je pense. Genre 6e année. Ouais. Ben, tu sais, MSN.
C'est quoi, t'as quel âge ?
C'est vrai. Ouais, 11-12 ans.
11-12 ans, ouais.
Ouais.
C'est quand même jeune.
Mais c'était contrôlé, là, tu sais, tu y vas juste une heure.
Ouais. Ça avait pas tant d'ampleur à ce moment-là.
Moi, je l'ai créé derrière le dos de mes parents. Ils m'avaient interdit d'aller sur Facebook, puis j'étais comme...
Il n'y avait pas de contrôle parental à l'époque?
Non, je crois pas.
Mais tu vois, les réseaux sociaux, on en parle tous les jours. On connaît les côtés positifs comme on en connaît les dangers. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais le gouvernement canadien, il a annoncé mercredi dernier la liquidation des bureaux de la filiale TikTok. Les bureaux présents à Toronto et Vancouver vont donc fermer. On se rappelle, l'année dernière, le gouvernement canadien, il avait interdit TikTok sur les appareils gouvernementaux. Comme ici à l'université, on n'a plus accès à TikTok avec le Wi-Fi, c'est totalement bloqué, ça ne charge plus, etc.
Mais pourquoi ils ont pris cette décision-là?
Mais ici, la motivation, cette fois, c'est la liquidation, en fait, c'est pour cause de menaces de la sécurité nationale. Mais en parlant de sécurité, si on parlait de celle de nos enfants, parce que, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai créé mon premier compte derrière le dos de mes parents, tu sais, comme on sait qu'on arrive sur les réseaux sociaux très jeunes, même vous, vous pouvez en témoigner. Mais depuis toujours, les gouvernements, ils essayent d'instaurer des nouvelles règles pour mieux régir leur utilisation. Eh bien là, le gouvernement australien, il a fait une annonce jeudi soir dernier qui m'a vraiment interpellée. Dans le fond, le premier ministre australien, monsieur Anthony Albanese, il a proposé une nouvelle mesure qui va interdire l'accès aux réseaux sociaux comme Instagram, Snapchat, Facebook, TikTok, même YouTube, aux moins de 16 ans dans le pays. Alors, monsieur Albanese, il blâme pas les enfants, les ados d'être actifs sur ces plateformes, mais bien les géants numériques qui, selon lui, n'ont pas été capables de restreindre leur accès pour préserver, en fait, la santé, que ce soit visuelle, mentale, etc., de nos ados. Donc, cette mesure, elle va être soumise au Parlement australien fin novembre. Si elle passe, les plateformes, elles vont avoir un délai de un an afin de pouvoir mettre en place des sécurités pour que les principaux concernés, en fait, ils n'arrivent pas à détourner cette mesure. T'avais une question?
Ah, ben, t'as répondu.
Parfait. Mais d'ailleurs, chose qui est d'ailleurs très facile à détourner, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des limites d'âge sur les plateformes pour les moins de 13 ans. Mais voilà, les jeunes, ils savent très bien, hein, il suffit de mettre une fausse date de naissance, puis le tour est joué, ouais. Que ce soit sur les réseaux sociaux, mais comme sur les sites de rencontres, sur les sites pornographiques, on te demande juste, oh, c'est quoi ton année de naissance, 18 ans, ah bah youpi, puis ça fonctionne. On en avait parlé justement la semaine dernière avec le service de Uber pour les mineurs. C'est trop facile de demander à une personne de créer un compte pour eux, etc. Alors, au final, c'est comme la question, elle se pose, qu'est-ce qu'on peut réellement faire? Est-ce que c'est réellement possible de limiter leur accès? Et si c'était si facile, ce serait déjà en place depuis longtemps.
Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà des pays qui essaient de mettre les choses en place?
Mais ouais, là on parle de l'Australie, mais ce n'est pas le seul pays. En Floride, aux USA, il y a une loi qui doit entrer en vigueur en janvier pour interdire l'ouverture d'un compte au moins de 14 ans. Pareil en Espagne, qui avait voté en juin, une loi qui interdisait l'accès également aux moins de 16 ans. Donc voilà, il y a de multiples tentatives des gouvernements de différents pays qui s'y sont essayés. Tu sais qu'on parle de réglementation d'âge, de contenu, des amendes pour les ventes de données, etc. pour préserver notre sécurité comme celle des jeunes. Mais comme on le répète à chaque fois, c'est presque impossible de mettre un stop, de mettre en place des barrières avec une réglementation sur un phénomène qui n'a pas de frontières. Alors, à qui en revient la responsabilité finalement? Est-ce que c'est aux plateformes? Est-ce que c'est au gouvernement? Est-ce que c'est aux parents? Parce que pourquoi c'est intéressant de s'attarder sur ce sujet? Bien, sans parler du contenu auquel ils sont soumis, une telle réglementation, ça pourrait empêcher, ou en tout cas ça diminuerait toutes les histoires d'harcèlement, de revenge porn, ça minimiserait tous les conflits auxquels nos ados, en fait, ils sont confrontés tous les jours à l'école, puis c'est des conflits qui se transportent justement en dehors de l'école à cause de ça. Comme ils seraient moins exposés à des traînes comme ça chaque jour, ça éviterait qu'il y ait des nouvelles modes, que ce soit sur les manières de manger, sur notre style de vie, de véhiculer des fausses nouvelles. Parce qu'au final, quand on y pense, c'est si les jeunes ils sont présents sur les réseaux sociaux, ben c'est parce que les autres ils y sont aussi. C'est un effet de mode. Quand on leur demande plusieurs fois, c'est toujours la même réponse qui revient. Si j'ai pas les réseaux sociaux, je vais me sentir left out, je vais pas être acceptée dans le groupe, puis on va penser que je suis bizarre, etc. Mais au final, si personne les avait, est-ce que dans le fond, ça réglerait pas une part du problème? Après voilà, tu sais, si on se questionne sur qui devrait réglementer le contenu, on pourrait aussi se poser la question sur les gens qui partagent ce contenu, sur ceux qui le mettent en ligne. Est-ce que ce serait pas eux qu'on devrait regarder à la loupe finalement, tu sais? On essaie toujours de dévier la responsabilité du problème vers les institutions ou les parents, mais c'est tout aussi essentiel de se questionner sur les créateurs de contenu. C'est eux qui publient du contenu problématique sur les réseaux sociaux et qui ont une part de responsabilité parce qu'ils contribuent à l'environnement digital dans lequel les jeunes d'aujourd'hui, ils évoluent. Tu sais, ils se gênent pas pour exploiter la vulnérabilité des enfants, / des ados qui, eux, ils sont attirés par tous ces contenus sensationnalistes, choquants, tu sais, comme, voire malsains.
Oui, vas-y. Ouais. Mais tu sais, je pense c'est parce qu'on a perdu un peu le contrôle justement sur le contenu Internet. C'est tellement large, il y a tellement de possibilités que c'est difficile de tout censurer. Mais alors, c'est quoi exactement les mesures que l'Australie pense mettre en place? Est-ce que c'est juste j'ai 16 ans et moins, donc je peux pas avoir accès?
Ils veulent mettre quelque chose de vraiment sérieux en place, justement, qu'il soit pas juste mettre une date de naissance. T'sais, comme il y aurait déjà... Il y a plusieurs réseaux sociaux qui le font maintenant, comme la reconnaissance faciale. Il y a déjà des IA qui ont été mises en place pour reconnaître, comme est-ce que la personne a l'air mineure ou pas. Ouais. Mais tu sais, d'un côté, oui, c'est quand même une solution, mais d'un autre, il y a quand même un problème éthique là-dedans. C'est comme à quel point l'IA peut savoir si la personne est majeure ou pas. Bon, après, tu sais reconnaître un visage d'enfant, mais
je suis pas à la SAQ, moi, je me suis tout le temps écartée. Ouais, ça fait 5 ans que je suis légale.
Mais je trouve ça intéressant parce que l'Australie, souvent, ils font ça comme aussi quand on avait bloqué les médias au Canada, on avait suivi l'Australie qui est quand même un leader. Tu sais, c'est comme un pays qui a aussi été colonisé par les Britanniques, mais ils sont vraiment comme, tu sais, ils sont forts là-dedans. Fait que je trouve ça le fun de voir ça.
Moi, je me dis aussi, tu parlais de ceux qui produisent le contenu, mais aussi les enfants, on les infantilise beaucoup. Mais je pense que les enfants peuvent, ils sont très vulnérables, mais à un certain extent, c'est important aussi de les éduquer par rapport à ça. Ouais. Ce serait de l'approprier. Tu pourras jamais contrôler ce que les autres produisent. C'est tout sûr. Ce que tu peux, oui.
Mais dans le fond, c'est parce que l'affaire, c'est que Mel a dit qu'on perdait le contrôle, mais on perd le contrôle. Dans le sens quand on était jeunes, là, puis on voyait le magazine Cool. Mm-hmm. On avait le contrôle sur d'achat avec nos parents qui nous permettaient de l'acheter.
J'étais
pour avoir accès.
Abonné à ça.
Mais c'est ça, mais tu sais, il fallait avoir accès par nos parents. Ouais. Là, on a juste à prendre notre cellulaire quand nos parents dorment, tu sais, quand
justement,
exemple,
que enfant, les enfants aient les outils de savoir ce qui est bien, ce qui est mal, d'avoir une éducation par rapport à ça.
Mais je pense que c'est un effet de mode, comme Maina disait, par contre.
Mais la responsabilité est genre, je pense, générale, en règle générale, les institutions ont une responsabilité, les parents en ont une grande aussi dans l'éducation des enfants, genre, mais aussi, comme tu disais, Maina, les influenceurs ou même les gens qui produisent du contenu sont autant aussi. Je pense que c'est...
Mais je suis d'accord, même aussi, genre, les gouvernements ont blâmé beaucoup Mark Zuckerberg, genre, Facebook, tout ça. Ils ont été mis en place pour, justement, qu'il y ait une perte de contrôle, puis c'est à eux de le régler, mais ils le font pas, donc...
Ouais, mais c'est ça. Mais tu sais, par exemple, il y a toujours des choses qui sont mises en place sur le contenu. Mais tu sais, en y réfléchissant, là, quand je me renseignais, puis je me disais genre, tu sais, comme tu dis, Mark Zuckerberg, il pourrait pas bannir, mais tu sais, comme avoir plus de, genre, dire un stop, etc. Sauf que, genre, ça partirait dans une, comment on dit, comme une censure aussi du contenu. Exact.
Ben merci Marina pour cette chronique qui était fort intéressante. Comme toutes vos chroniques, on pourrait en parler pendant des heures. Mais c'est déjà l'heure de nous se quitter et de se dire à la semaine prochaine pour une autre émission sur Bulle d'écoute. Merci encore d'être parmi nous en ce mardi midi pour cette 10e émission. Pour écouter toutes nos émissions ou nous écrire sur des sujets que vous aimeriez que l'on aborde, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre compte Instagram au bulle-d'écoute.officiel. Vous pouvez également réécouter toutes nos émissions et celle-ci sur Spotify, Apple Podcast et le site du CSM au csm89-3.ca. On se retrouve mardi prochain pour une nouvelle émission avec la même équipe. Merci d'être entré dans notre bulle sur les ondes de CSM 89.3 La Marge. Bonne semaine tout le monde.
Bonne semaine. On va se retrouver la réunion.
Vous écoutez CISM.
Hey, ici Simon Pollon-Gervais, votre animateur de l'émission Tout et dans Tout, votre rendez-vous musico-culturel, amical et psychotronique. On va y explorer les liens entre la musique, les artistes et le monde. C'est un rendez-vous les vendredis 10h30 jusqu'à midi sur les ondes de CISM.
Situé à Saint-Hyacinthe, le Zarico est la salle de spectacle incontournable dans le paysage culturel québécois. Cet automne, le Zarico vous promet votre dose d'artistes émergents et reconnus sur les scènes alternatives du Québec. Philippe Braque, Zouz et Awabé, Dan Livingstone, Ramage, Marie-Pierre Arthur, Princesse et Charogne, Matt Ulubowski, Tango Golf Tango et Fred Dispo, Joe Rocca et Dope Gang, Patrick Bourdon et Émile Bourgault, Solids, Pnoum et Perma, Gabé et Oui Merci et Joe Grass. Venez assister au lancement de programmation hiver et printemps 2025 le 14 novembre à 17h. Rendez-vous sur lezarico.com pour tous les détails. Accessible avec l'autobus 200 à partir du métro Longueuil.
Du 20 au 23 novembre, préparez-vous à vivre le Marathon, une présentation de M pour Montréal et SiriusXM. 4 jours de spectacle avec nul autre que Claudia Bouvette, Peter, Charlie Houston, Sheilia, Les Breastfeeders, Lou Baline, Croy, BB Club, Mist Milano et plusieurs autres. Avide de musique et d'adrénaline, lacez vos souliers car la ligne de départ approche. Détails et billets au mpourmontréal.com.
Billy Bowler. alert! Moi, je suis petit Béliveau, le 22 novembre 2024, Earth Who, au MTELUS, première fois de ma vie. Si tu veux un point à l'MTELUS 22 novembre, si tu veux un point à l'MTELUS 22 novembre,
I'm gonna poop my pants.
Le 22 novembre prochain, au Jeunesse Musicale, le producteur de concerts en musique contemporaine et expérimentale Côte d'Accès présente Virtuosité plurielle, un programme d'œuvres exprimant différentes visions de la virtuosité tout en soulignant les talents de la relève montréalaise. Découvrez comment les instruments comme le cor, la guitare classique, la clarinette et les quatuors de flûte ou de saxophone s'agencent avec les sons électroniques pour une soirée éclatée. Visitez côtedaccès.org pour plus d'informations.
Ici Mademoiselle Philippe, animatrice du balado d'un album à l'autre dans lequel on découvre l'évolution d'artistes de la chanson par le biais de leur discographie. Les mardis à 15h sur les ondes de CISM, j'ai la chance de vous présenter quelques extraits de mes entretiens. Donc, soyez au rendez-vous. À bientôt!
Écoutez CISM 89.3 FM.
Cette émission est une rediffusion.
Soy ya no haces.